France Inter. Frédéric Mettezo, le 6-9 de l'été.
Avec Enki Bilal, invité du 6-9 de France Inter, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié il y a quelques semaines Bug
déjà,
chez Casterman, au mois d'avril, c'est
ouais,
cela
ouais.
Déjà deux tomes, on attend le troisième. Je résume en quelques mots, hein. Nous sommes le jeudi 13 décembre 2041 au matin, ça commence à Paris. Toutes les données stockées dans tous les ordinateurs et tous les appareils électroniques du monde et tous les disques durs ont disparu. Il n'y a plus de données, il n'y a plus de data. C'est le chaos. Les mots de passe, les codes PIN, les répertoires, les instructions informatiques, toutes les pages du web ont disparu. À vous lire, Enki Bilal, on n'a pas besoin d'être en 2041 pour se rendre compte qu'on est numériquement dépendant.
Oui, c'est le monde d'aujourd'hui que je décris d'une certaine façon. Pourquoi 2041 ? C'est uniquement pour une question de plausibilité par rapport à un voyage sur Mars. Parce que il y a quand même un personnage très important qui revient d'une mission martienne. Donc
Monsieur
2040, Cobb. Le personnage central. Donc je pensais qu'effectivement, dans le meilleur des cas, si on écoute Elon Musk, on y part dans 15 ans, 10-15 ans, ce qui me paraît un peu court. La NASA est un peu plus raisonnable, donc on peut penser qu'en 2040, ça sera fait. Donc c'est uniquement ça, mais la réalité, c'est aujourd'hui et notre très très proche avenir et notre addiction. Et la mémoire, c'est ça le cœur du sujet.
Et c'est ça, votre personnage, on va pas tout raconter, mais ce Cobb, il est omniscient et hypermnésique. Il sait tout sur tout, et finalement ça l'handicape beaucoup. C'est un peu le contraire du personnage de 13, où alors lui il sait plus rien.
Oui, j'avais pas pensé à ça, mais en effet, c'est tout à fait, c'est pas accidentel. On va pas raconter en effet, mais il se retrouve avec tout ce qui a disparu, tout ce qui a été asséché du numérique mondial. Il le retrouve dans sa tête, c'est-à-dire qu'il devient le disque dur ultime et unique de toute la connaissance et de toute la mémoire de l'humanité. Donc bon, ça va s'expliquer, bien sûr, on va savoir pourquoi. Je suis en train de développer, en plus avec Dan Frank, on est en train d'écrire une série pour la télévision, donc ça sera
sur France Télé, hein,
sur France Télévision. Donc j'ai avancé, je suis très 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 en avance sur les albums. Et ce sera très différent, du coup les deux seront très 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 différents. Mais en tout cas, c'est vraiment le cœur du sujet, c'est ça, cet homme devient hypermnésique.
Alors que les autres ne savent plus rien.
Voilà.
Alors d'ailleurs, il y a des scènes très drôles, hein, dans ces deux tomes. Il y a plus de correcteurs orthographiques.
Oui.
Donc du coup, il y a des fautes de frappe partout dans les journaux. Des milliardaires qui s'étaient payés un dispositif pour l'éviter, ils se retrouvent bloqués en l'air parce qu'ils peuvent plus redescendre. Et puis, au-delà du chaos technique, il y a un chaos moral dans votre œuvre, dans Bug. Des centaines d'adolescents de par le monde se suicident parce qu'ils ont plus d'amis numériques.
Alors c'est tout ça, ce sont des choses qui sont effectivement qui existent ou qui existeraient. Moi, j'ai quand même lu pas mal de choses là-dessus. L'addiction, hein, ça s'appelle l'addiction. On est tous impactés par ça. Moi le premier d'ailleurs. Hein, je suis perdu quand mon iPhone est en panne ou que je n'ai pas mon ordinateur. Donc ça, le questionnement, il est effectivement sur déjà nos pratiques d'aujourd'hui. La paresse, d'une forme de paresse intellectuelle qui nous fait oublier ce qui est l'une des forces de l'humain, c'est la mémoire. Or, moi, je confie à mon ordinateur, sous forme de fichiers, énormément de données que je ne lis pas ou que je n'analyse pas, en me disant, voilà, c'est de côté, j'y aurai accès quand je le souhaiterais. Or, en fait, on passe à côté d'énormément de choses, parce que simplement, on se dit, ça va rester. Or, le danger est là.
Mais pour ces ados, l'addiction numérique, c'est une addiction affective. Et d'ailleurs, Bug fait écho à ce que Instagram a annoncé il y a quelques jours. Ils vont retirer la fonction like, vous savez, la fonction j'aime, parce que pour certaines personnes, c'était trop dur, trop triste de ne pas être liké, de ne pas être aimé. On y est ?
On y est, mais bien sûr. Je pense qu'effectivement, on est en plein dans l'œil du cyclone. C'est une période sur une dizaine d'années où effectivement on essuie les plâtres parce qu'on est fragilisé par une révolution qui nous dépasse. Elle est instantanée, cette révolution numérique. Elle impacte le monde entier. Ça va à une vitesse énorme. Donc on est forcément tous déstabilisés et les plus fragiles sont réellement touchés. Donc ça, il faut un certain temps pour que la toute nouvelle génération, maîtrise cette addiction et la transforme en quelque chose de positif. Donc ça, je suis pas inquiet là-dessus.
Ce qui est intéressant avec Bug, c'est qu'on est en 2041, mais c'est pas de la science-fiction. Vous ne faites plus de science-fiction, Enki Bilal. On y est.
Bah, on y est. Moi, c'est ce que je dis. Alors, effectivement, on peut toujours raconter une histoire qui va se passer dans deux siècles ou trois siècles. Imaginer des rencontres avec des extraterrestres. Moi, ça m'amuse toujours. J'adore ce genre de délire. Mais on est aujourd'hui dans un monde qui est l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, le transhumanisme. Tout ça, c'est en route, c'est en marche. Je veux dire, oui, on est dans ce monde-là. Qu'il y a 20 ans, 30 ans, ça passait pour de la science-fiction. On y est.
Alors, cela dit, est-ce que la science-fiction, elle n'a pas commencé à être battue en brèche il y a 50 ans avec l'homme sur la Lune et puis à peu près à la même époque avec le Concorde?
Bien sûr, non, mais la science-fiction, c'est le mot science est là à partir du moment où l'homme a commencé à la révolution industrielle aussi, elle a amené le transport, le TGV, c'était de la science-fiction. Enfin bref, ça c'est l'aventure des humains. Hein. Mais là, on est dans quelque chose qui est surtout parce que un train qui va très très vite, c'est formidable. Aller sur la Lune, c'est un exploit énorme. Mais là, il y a un enchaînement qui est tout à fait significatif, notamment de cette puissance de l'intelligence humaine qui se démultiplie dans tous les domaines. Et ça, c'est cette concentration, elle est due au numérique et c'est la grande nouveauté de cette révolution.
Il y a une autre caractéristique dans Bug, les femmes ont le pouvoir, les leaders sont des femmes.
À la fin, en tout cas, du deuxième, oui, ça annonce un troisième volet où
on voit déjà dans les premiers tomes des femmes en responsabilité. Ouais. Là, on n'y est pas encore tout à fait.
On n'y est pas encore. Alors dans Bug, effectivement,
même pas encore du tout.
On a une présidente française qui est une jeune femme noire.
Noire.
J'attends avec impatience ce genre de basculement.
Là, on est encore dans l'anticipation pour
là, on est effectivement quelque chose. La parité, c'est pas pour aujourd'hui encore.
Dans Bug, certains pays ont disparu, d'autres pays sont nés, comme le pays kurde ou le califat islamique uni. Ça, des pays qui disparaissent, des pays qui implosent, ça vous parle? Parce que votre pays natal, la Yougoslavie, avait disparu. C'était anticipable, ça?
Oui, la Yougoslavie, oui, c'était parce que effectivement, il y avait une forme de miracle au sortir de la Seconde Guerre mondiale avec Tito notamment, qui était le héros, qui avait vaincu, qui avait participé à la victoire donc des Alliés sur le nazisme, et dans les Balkans, c'est lui qui avait été vraiment le vainqueur. Donc,
sans soldats étrangers sur son sol.
Exactement. Donc c'était vraiment des partisans de la résistance et donc il a réussi à fédérer pendant plusieurs décennies donc ce pays, la Yougoslavie, totalement irréel d'une certaine façon, parce qu'il y avait des ethnies différentes, des religions différentes, etc. Et à un moment donné, forcément, lui ayant disparu, le pouvoir collégial qui a duré une dizaine d'années comme ça a fini par imploser. Mais ça, c'était prévisible, et l'Europe a raté le coche, aurait dû être vigilante. Je pense qu'elle n'est pas très vigilante non plus aujourd'hui, l'Europe. Elle s'aligne trop sur la politique américaine sur les Balkans. En fait, la politique européenne dans les Balkans, c'est la vision américaine, et ça, c'est une erreur.
C'est-à-dire
je pense notamment le problème de la Serbie et du Kosovo. Moi, je reviens de Serbie. Là, j'étais avec
Emmanuel Macron,
avec le président Macron. J'ai été sur un plan culturel, mais j'ai suivi ce déplacement sur deux jours. Donc, c'est très important la manière dont il est très impressionnant comme président à l'œuvre. Dans sa façon d'écouter et de convaincre. Donc il a convaincu le président Vučić, serbe, d'engager des vraies négociations avec le Kosovo.
Avec le Kosovo. Voilà.
Il a quand même parlé pendant 7 minutes en serbe. Il a fait une déclaration en serbe absolument incroyable. Je l'ai un peu coaché dans l'avion, c'était assez étonnant.
Vous lui avez fait travailler l'accent tonique?
Oui, mais c'était déjà très au point. Et j'étais très surpris de l'absence d'intérêt des médias français pour ce déplacement. Alors qu'il était, en plus du point de vue serbe, c'était très important.
Et surtout, c'était couvert sur France Inter.
Mais sur place, il y avait très peu de journalistes. Et après, j'ai pas trop eu de retour. C'est très important, les Balkans, faut faire très attention. Parce que ça peut redémarrer, Sarajevo se fragilise aussi. Et là, il y a tout l'aspect religieux qui est quand même très très présent. Et ça aussi, faut pas passer à côté. On était déjà passé à côté lors de l'éclatement de la Yougoslavie. On n'a parlé que de nationalisme. Alors, il y avait déjà du religieux.
ça peut recommencer aujourd'hui sous pression des intégrismes, notamment musulmans.
Oui, ça, bien sûr. Sarajevo est très, 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 très fragilisé de ce point de vue-là. Ouais.
Alors que c'était une ville extrêmement ouverte et précisément et sécularisée.
Exactement, et parce que précisément il y avait toutes les religions, toutes les ethnies, tous mélangés, toutes les cultures. Et ça, c'était un laboratoire magnifique de métissage culturel et religieux. Moi, je trouvais ça sublime. Et c'est ce qui a d'ailleurs déplu finalement lors de l'éclatement de la Yougoslavie, c'est qu'on s'est acharné beaucoup. Le monde rural fermé des bosno-serbes s'est acharné à détruire cette espèce de lumière quelque part.
L'islam des lumières, il était peut-être là-bas.
Il était là-bas, il n'est pas... Oui. Que là-bas.
Avant de prendre les questions des auditeurs au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr, retour à la BD, au dessin. Greta Thunberg, Boris Johnson, Donald Trump, Kim Jong-un, vous auriez pu imaginer de tels personnages et de tels visages dans vos albums, Enki Bilal ?
Oui, bien sûr.
Ils sont graphiques, tous.
Oui, mais quand on voit Trump et Johnson, on se dit tiens, les cheveux jaunes sont au pouvoir. Là, ils se reproduisent entre eux. Là, c'est très étrange. Kim Jong-un, c'est un personnage de bande dessinée et de comédie et malheureusement de comédie noire aussi. Bien sûr, il y a d'ailleurs un clin d'œil dans le Bug 1, un dirigeant coréen qui.
Ça s'appelle la Corée du Nord-Est.
Du Nord-Est, parce que c'est du népotisme qui se déplace. Dans un territoire. Et oui, c'est un dirigeant qui a les codes, mais il les a enfermés dans un coffre qui lui-même est numérique. Donc il avait noté des codes sur papier en disant, moi j'y ai pensé, mais il les a foutus dans un coffre numérique. Non, il y a de la dérision là-dedans, et ce sont des personnages évidemment qui font rire, mais qui sont très inquiétants, parce qu'ils sont à des postes important, on va dire.
Des postes clés. Racontez-nous, Enki Bilal, votre expérience de juré au Festival de Cannes cette année.
Ah oui, c'était une très belle expérience, à la fois humaine et artistique. Il y avait un jury très... le président était Iñárritu, grand cinéaste que j'admire énormément, cinéaste mexicain. Et une très belle sélection, très très variée, très très internationale. Avec une unanimité absolue sur la Palme d'Or, film coréen magnifique. Voilà, je peux pas raconter toutes les délibérations, mais ça s'est passé de manière très, voilà, on va dire très très soft, même s'il y avait des oppositions sur certains films. C'est une expérience assez incroyable, parce qu'on vit, on est totalement enfermé dans un système qui nous fait consommer du cinéma, qui nous met à l'écart, et en même temps qui nous place au meilleur endroit à Cannes. En fin de compte, c'est une forme de liberté délimité par des règles, mais d'une grande richesse.
Il n'y a pas un risque d'overdose, ou vous savez, quand on mange trop de boulimie et d'en avoir un peu ras la gueule, pardonnez-moi l'expression.
Non, j'y ai pensé à un moment, je me suis dit ça va peut-être être délicat, mais non, au contraire, il y avait le sens du devoir, d'une certaine façon. Il fallait accomplir ce devoir, voir tous les films, les voir jusqu'au bout, sans a priori. C'était aussi le vœu d'Iñárritu, hein. Il a dit on est là pour essayer de prendre du plaisir, prenons les films comme des objets qui nous séduisent ou qui ont envie de nous séduire, ne les prenons pas comme des films de tel ou tel ou appartenant à telle ou telle chapelle. Soyons neufs, soyons vierges face à chaque film. Et ça, c'est une très belle approche et c'est ce qu'on a fait.
On va marquer une petite pause musicale, Enki Bilal. Je vais vous faire écouter un morceau que vous aimez bien. C'est amusant parce que le groupe s'appelle Bug, justement comme votre titre. C'est de l'électro, ça s'appelle Angels and Devils.
Oui,
le groupe Bug, vous connaissez, vous dessinez en écoutant ça.
Alors pas forcément ça mais aide. J'écoute de la musique, bien sûr, j'écoute pas mal de musique en dessinant ou en écrivant aussi. Alors tout ça, ça dépend de... Effectivement, sur l'écriture, j'ai plus de tendance à écouter ou du classique ou de l'électronique.
Donc quand vous écrivez les dialogues.
Les dialogues, les...
Et le scénario, hein, le
oui,
synopsis.
Et puis même, et puis il y a beaucoup de voix off. Moi j'aime beaucoup écrire, hein, ça surprend souvent les gens. Je préfère sans doute, peut-être quelque part, écrire que dessiner.
Le dessinateur est un écrivain.
Je pense que, un auteur de bande dessinée est un écrivain, bien sûr.
Vous dites souvent dans les interviews, j'ai quand même le sentiment que la BD est considérée comme un art mineur par rapport à la musique, par rapport au cinéma, alors que vous-même vous êtes réalisateur. Vous avez toujours ce sentiment ?
Non, pas vraiment. Je l'ai dit ça il y a très longtemps. Ouais. Non, il y a eu une évolution très nette, c'est
ça
clair.
Ça a changé.
Hein. Ça a changé, bien sûr, heureusement. Bien sûr. Mais il y a quand même... je dirais presque que, en France, hein, c'est dans les gènes culturels de la France, l'image est quelque part un tout petit peu en deçà par rapport à l'écrit. C'est un peu général ce que je dis, mais je pense que c'est réel.
On est un pays littéraire,
un pays du verbe, du mot, de l'écrit, de l'esprit qui passe par l'écrit et pas par l'image, contrairement au monde anglo-saxon qui est parfaitement complet à ce niveau-là. Et donc ça, on peut le sentir. L'image est quelque part un tout petit peu méprisée dans certains milieux un peu conservateurs, intellectuels.
Ouais. Suzanne, sur franceinter.fr, nous demande si vous vous intéressez à la nouvelle génération d'auteurs de BD.
Bien sûr, je lis très peu de bandes dessinées. Hein, personnellement, j'en lis assez peu, mais je me tiens au courant. Je vois ce qui sort, je sais quelles sont les tendances. Et effectivement, c'est très vaste aujourd'hui, le champ de la création.
Vous pourriez nous recommander une lecture, tiens, pour l'été.
Moi, j'aime beaucoup Bastien Vivès. C'est déjà quelqu'un qui est installé depuis un certain temps, mais c'est quand même un des jeunes auteurs que je trouve vraiment très, très, très intéressant.
La BD, vous êtes aujourd'hui bien installé également, hein, ça fait une quarantaine d'années que vous publiez.
Je ne compte plus.
Le 27 avril dernier, il y avait une grande vente aux enchères de bandes dessinées, des lithographies d'Hergé, de Franquin. Un gros succès pour les Martines, mais la plus belle vente, c'était vous. 149 500 euros aux enchères pour une planche de La Femme Piège. C'était deux fois son estimation. Alors, vous êtes flatté ou vous êtes inquiet d'être un peu muséifié, si je puis dire?
Ma cote, effectivement, elle est pas seulement en bande dessinée, mais en peinture aussi. Elle est très élevée, hein. Je l'accepte, hein. Je suis assez satisfait de ça, mais c'est pas un calcul. Ça ne se fait pas. Il y a du travail derrière ça. Et puis, il y a un moment donné des circonstances qui font qu'il y a le milieu de l'art qui s'intéresse à votre travail. C'est quelque chose de, effectivement, qui est très agréable, mais qui ne m'a pas du tout changé dans mon fonctionnement.
Non, ça vous est pas monté à la tête.
Non, ça c'est certain. Je pense que c'est une de mes des qualités, c'est d'avoir cette forme de distance par rapport à ça. Sinon, on ne dure pas, hein, dans tous les métiers de création. Si on se prend la grosse tête à un moment, on explose en vol. Donc c'est
comme à la radio.
Sans doute, hein, mais c'est effectivement, c'est faux. Et encore la radio, il n'y a pas l'image, on vous voit pas, même si on est filmé maintenant et que de plus en plus le présentateur de radio est connu physiquement. Mais il y a, non, je pense que c'est quelque chose de, j'ai cette chance de ne pas du tout être touché ou obsédé par les honneurs ou la reconnaissance. Ce qui m'intéresse réellement, c'est de continuer
la création.
Ouais, et d'essayer de me surprendre et de me...
On va évoquer les créations à venir, mais on va aller au standard où nous attend Gabriel au 01 45 24 7000. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'Inter, Gabriel.
Bonjour à tous. Bonjour Anne Kivilal.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous espérez dans Macron?
Qu'est-ce que j'espère?
Question brève, réponse à votre convenance, Enki Bilal.
Bah, écoutez, moi, ce que j'ai vu, donc c'est très très récent, une expérience récente. Donc, ce que j'ai vu à Belgrade m'a beaucoup impressionné, à savoir qualité d'écoute, capacité d'écoute. Moi, je vais faire rencontrer une douzaine d'artistes, de jeunes artistes serbes dans tous les domaines. C'est pas fin, quoi. C'est une réelle
fin,
écoute.
FINT. Voilà.
C'est pas fin. Là, la beauté de la langue française, hein, ouais. Qu'on peut avoir.
Pas de semblance, vous nous dites.
Non, il écoutait réellement, il posait des questions, il proposait même des solutions concrètes. Il a fait la même chose, je l'ai vu dans sa conférence de presse avec le président serbe dans la grande déclaration dans le parc Kalemegdan, parc où je suis né en face de ce parc, donc pour moi c'était très émouvant de revenir dans ces conditions-là à Belgrade. Donc j'aimerais effectivement que dans la politique intérieure en France, il ait cette aisance, cette force et cette capacité d'écoute. Alors voilà, moi j'espère le meilleur, même si on sait que c'est très difficile de gouverner en France et de réformer la France, mais le chemin est long et complexe. Ouais.
Emmanuel Macron, c'est pas forcément à la base la famille de pensée politique qui est la vôtre.
Non, vous savez, moi, la gauche, je suis d'origine intellectuellement, et la gauche, c'est quelque chose qui est mon camp d'une certaine façon, mais depuis très très longtemps, la gauche m'a déçu, la droite, c'est pas du tout alors ma tasse de thé, mais en tout cas, cette espèce de binôme un peu artificiel depuis des années, gauche-droite, c'est vrai que ça devient n'importe quoi, et c'est devenu n'importe quoi, y compris avant l'élection d'Emmanuel Macron. Donc moi, Macron, au contraire, représentait une forme de nouveauté, ne serait-ce que par l'âge, c'est une forme de progression.
Et alors, aujourd'hui, on a le binôme Macron-Le Pen.
Ah oui, mais ça, c'était déjà le cas aussi au moment de l'élection. Donc ça, ce binôme-là, c'est malheureusement c'est très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué d'ailleurs, mais c'est la somme, l'addition de faillites, je dirais, de la gauche et de la droite au cours des 30 dernières années, la faillite de la gestion du Front National. On bottait en touche, on disait voilà le diable et c'est super, on va pouvoir rester, on va se partager le pouvoir, le diable est désigné. Le diable, il fallait le faire exploser en vol et c'était pas compliqué, il suffisait d'affronter. Or là, le problème, c'est qu'on a accumulé, et le populisme, quelque part, est en train de s'insinuer, d'apparaître aussi, y compris dans les esprits français.
Dernière intervention au Standard, bonjour Patrick.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Enki Bilal. J'aime beaucoup votre travail en fait. Vous m'avez vraiment donné envie de lire ce dernier album.
Allez-y, c'est très bien.
Voilà, j'ai une question à vous poser vis-à-vis des nouvelles formes de BD.
Oui.
Qu'on appelle les webtoons. Je pense que vous connaissez. C'est en Asie notamment, ça marche très bien. Ce sont des applications mobiles. Il y a des sociétés comme Naver par exemple en Corée qui en diffusent beaucoup. Le principe, c'est que voilà, tous les jours, vous avez des dizaines voire des centaines d'artistes qui vont proposer sur un format réduit, donc format téléphone, un contenu en fait graphique et on lit les épisodes tous les jours, etc. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. C'est vraiment pour une nouvelle forme d'expression et savoir si vous pensiez peut-être un jour collaborer avec ce type de plateforme.
Merci Patrick.
Alors, je connais assez peu le système, mais j'en ai entendu parler, bien sûr. Bah, ça fait partie effectivement de l'évolution. Donc, quand je parlais tout à l'heure de révolution avec le monde numérique, ça en fait partie. Donc, dans tous les domaines, on va avoir comme ça une espèce de progression horizontale où il va y avoir énormément d'expérimentation. Même moi, d'une certaine façon, avec Julia et Rome, qui est sortie il y a déjà quelques années, on avait fait une application, mais une version numérique qu'on pouvait lire. Sur une tablette, case par case, donc c'était intéressant. On n'avait pas la double page ouverte, on découvrait case par case. Ça n'a pas forcément pris, mais peut-être qu'effectivement, on est un peu plus conservateur en France et en Europe.
Mais ça va venir.
Mais ça peut venir. Alors moi, j'aime le côté format, petit format, moi je trouve que l'image, ça a besoin de respirer, ça a besoin d'être en grand. Et puis j'ai vraiment un attachement pour l'image. Peinte, imprimée, réelle, mais en tout cas, évidemment que les nouvelles technologies, je les accepte et je trouve que c'est fascinant. Alors un jour, j'y passerai peut-être aussi d'une certaine façon.
Eh ben, des images en grand, on peut en lire dans Bug. Les deux premiers tomes sont sortis chez Casterman. Merci Enki Bilal. 8h43,
merci.
Bonne journée.